Bonsoir, bienvenue dans cette édition de Céline de la Presse qui vous propose trois thèmes à savoir. Clôture mercredi dernier au Parlement de la session ordinaire du mois de mars. Ensuite, accrochage mercredi toujours à Lubumbashi entre les partisans du gouverneur du Katanga Moïse Katumbi et ceux de Jean-Claude Muyambo. Enfin, célébration hier jeudi 16 juin de la journée de l'enfant africain. Trois confrères et journalistes qui participent à ce débat, il s'agit de Benoît Cambéré, le rédacteur en chef du journal Les Échos de la région des Grands Lacs, c'est un journal qui paraît ici à Kinshasa. Bonsoir Benoît Cambéré.
Bonsoir.
Albert Omba, le journaliste à Kinshasa FM, une radio qui émet depuis Kinshasa. Bonsoir Albert Omba.
Oui, bonsoir.
Peter Batilois, il est correspondant de la radio-télévision du groupe L'Avenir au Bas-Congo. Bonsoir Peter Batilois.
Oui, bonsoir Monsieur Guy.
Clôture de la session de mars au Parlement, accrochage à Lubumbashi entre les partisans de Muyambo et de Moïse Katumbi, ainsi que célébration de la journée de l'enfant africain. Pour savoir comment la presse a traité ces différents thèmes, écoutons cette revue de presse que nous propose Samuel Kachak.
Bonsoir. Plusieurs sujets ont retenu l'attention des journaux parus cette semaine à Kinshasa. Il s'agit de la clôture au Parlement de la session ordinaire de mars, des affrontements au Katanga entre les partisans de Jean-Claude Muyambo et Moïse Katumbi, et enfin de la célébration de la journée internationale de l'enfant africain. Concernant le premier sujet, Ourou affirme que la chambre basse du Parlement congolais est à partir du mercredi dernier en vacances, bien méritée, après avoir abattu un travail de titan au cours du dernier trimestre, constate la Consoeur. Ce qui n'est pas de l'avis du quotidien L'Avenir, qui voit plutôt un bilan mitigé de cette session de mars, étant donné que plusieurs lois n'ont pas été votées. Le potentiel de son côté estime que le gouvernement a raté son coup avant la clôture de cette session parlementaire au Sénat. Un autre sujet abordé cette semaine, c'est les affrontements au Katanga entre les partisans de Jean-Claude Muyambo et Moïse Katumbi Tshakwe. La prospérité titre, Jean-Claude Muyambo accuse Moïse Katumbi suite aux échos pourraient survenir mercredi dernier à Lubumbashi entre leurs partisans. Selon ce journal, le spectre de l'intolérance politique vient du terrain au Katanga et s'il en prend garde, un embrasement généralisé peut arriver à tout moment en cette phase préélectorale. Et dans son analyse, le Phare constate que le bâtonnier Jean-Claude Muyambo était loin de s'imaginer qu'il venait de déclencher la guerre des milices à Lubumbashi. Terminons cette revue de la presse avec l'Observateur qui fait mention de la célébration à Kinshasa de la Journée internationale de l'enfant africain. Selon ce journal, les violences contre les enfants en rupture familiale ont été mises en exergue lors de cette journée. La référence plus de son côté estime que 385 enfants entrent chaque mois dans la rue à Kinshasa. Par rapport à cette journée, l'UNICEF vient de tirer la sonnette d'alarme sur l'impact de la violation des droits des enfants en rupture familiale, conclut Forum des As.
Merci Samuel Kachak. Un petit commentaire, Benoît Cambéré, vous êtes rédacteur en chef du magazine Les Échos de la région des Grands Lacs. C'est un magazine qui paraît ici à Kinshasa. La presse a fait son travail et elle a fait aussi état du report du verdict dans le procès Floribert Soubéa.
Effectivement, c'est sur ce point que je voulais qu'on ajoute aux trois titres de ce soir, n'est-ce pas? C'est le report qui est en fait une grande information aussi. Comme tout le monde attendait le verdict de la Cour, le fait que ce verdict n'est pas tombé hier, n'est-ce pas? Ça fait que cette non-tombée de verdict de la Cour était une grande information parce que malheureusement, on s'est posé beaucoup de questions parce qu'il semble. Il semble, je l'ai dit deux fois, qu'un des juges serait malade. On nous a dit que cela a été reporté au jeudi prochain. On espère qu'il ne va pas continuer à être malade ou que quelqu'un d'autre ne tombera pas malade. Sinon, c'était difficilement gobé par toutes les personnes qui étaient là, très très nombreuses pour ce verdict.
Albert Omar, vous êtes journaliste à Tropicana FM, une radio qui émet depuis la ville de Kinshasa. Et l'autre actualité, c'est le chef de l'État qui s'est enrôlé aujourd'hui à Kinshasa.
Oui, c'est une bonne information, mais moi je vais plutôt aller du côté culturel où il y a eu toute la semaine l'exposition de l'enseignement supérieur et la conférence des chefs d'établissement
à l'Académie des Beaux-Arts.
L'Académie des Beaux-Arts, une conférence qui a réuni tous les responsables des établissements de l'enseignement supérieur et universitaire de la République, où ils ont échangé sur les méthodes et tout ce qu'il fallait faire pour sauver l'université congolaise. Donc pour moi, c'est un événement. Bon, l'aroma du chef de l'État aussi constitue un événement dans le sens que ça humilie aussi tout le monde qui n'a pas fait un geste pour aller se faire enrôler. C'est une occasion de suivre cet exemple.
Ça peut inciter les gens à aller se faire enrôler.
Oui.
Ils sont encore hésitants.
Oui. Quand tout le monde verra le soir que le chef de l'État s'est arrosé, je crois que beaucoup vont se précipiter aussi pour faire la même chose.
Peter Bassinois, vous êtes correspondant de la radio-télévision du groupe L'Avenir au Bas-Congo. Quelle est l'actualité à la une dans cette province?
Ah, spécialement pour nous dans la province du Bas-Congo, il fallait retenir que la ville de Matadi a vibré le 10 mardi au rythme de l'inauguration du pier 4 du port maritime international de Matadi. C'est un quai d'accostage qui a été réhabilité sur fonds propres de l'UNATRA et ce quai a été remis à l'exploitation. Et c'est une façon pour la société commerciale des ports et des transports de pouvoir augmenter les capacités d'accostage au niveau du port de Matadi, puisque vous êtes sans ignorer que depuis 2004, le port maritime international de Matadi a perdu 40% de ses capacités d'accostage. Et c'est comme cela que la société nationale la société commerciale des transports et des ports a mis en exergue l'expertise maison pour pouvoir réhabiliter ce quai.
Merci, notre premier thème de ce soir. Clôture mercredi dernier au Parlement de la session ordinaire de mars. Les députés et sénateurs ont voté mercredi le texte harmonisé de la loi électorale. À l'issue de ce vote, la session parlementaire ordinaire a été clôturée. Concernant les bilans de cette session de mars, certains députés estiment que l'essentiel a été fait, d'autres par contre déclarent les négatifs au motif que plusieurs lois n'ont pas pu être votées. Mimi Ngumba pour les détails.
La question du bilan pour les travaux de la session de mars divise les parlementaires. Dans les camps de la majorité présidentielle, certains parlementaires interrogés affirment que le bilan est positif car, disent-ils, la loi la plus importante de cette session a été adoptée par les deux chambres, entendez la loi électorale. D'autres, par contre, contactés au sein de l'opposition, pensent que dès le début de la session, les parlementaires n'avaient pas le cœur à l'ouvrage. Plusieurs parmi eux s'étaient lancés soit dans la recherche des fonds pour des fins électorales, soit dans la campagne carrément. Pour ceux qui soutiennent ce point de vue, le bilan est négatif car l'adoption de beaucoup de lois ont souffert du manque de quorum. Une situation à récupérer peut-être lors de la session extraordinaire, laquelle session devra examiner, entre autres, la loi portant annexe à la loi électorale, celle qui devra fixer notamment le nombre de sièges pour chacune des circonscriptions électorales.
Nous allons lire les une de certains journaux. Nous avons le quotidien Le Potentiel qui dit « Pouvoir de légiférer, les gouvernements ratent son coup au Sénat ». Nous avons le quotidien La Tempête des Tropiques qui dit « Le Sénat rejette la loi d'habilitation sollicitée par le gouvernement ». Et nous avons le quotidien Forum des As qui dit « Clôture de la session ordinaire de mars 2011, gouvernement et parlement séparés dos à dos au centre du désaccord, le projet de loi d'habilitation ». Benoît Cambéré, si vous êtes demandé de dresser les bilans de cette session qui s'est clôturée mercredi dernier, que diriez-vous?
Ben, c'est comme toutes les sessions. Et en fait, c'est même la dernière session ordinaire. On devrait, à partir de cette session, n'est-ce pas, tirer le bilan global de cette législature, à savoir, on a vu toutes les affaires qui ont été menées au Parlement, à l'Assemblée nationale et au Sénat, n'est-ce pas, des interpellations qui n'ont abouti à rien, des contrôles parlementaires qui n'ont abouti à rien, des lois qui ont été arrachées à coup d'argent, même la loi électorale dont on se félicite à titre d'exemple qu'elle a été votée Finalement, il a été voté très en retard. C'est une loi qui est attendue depuis des années même. C'était une loi. Maintenant, on n'a même pas fini parce qu'il faudrait qu'on vote encore une annexe à cette loi qui va fixer les sièges électoraux et tout, mais c'est dire que globalement, toute cette législature, surtout la deuxième partie de cette législature, le bilan est négatif. Sincèrement.
Albert Bamba, comme le dit Benoît Cambéré, le bilan est négatif, mais il faut quand même reconnaître qu'il y a abondance dans la production parlementaire. Il y a eu beaucoup de lois qui ont été examinées et adoptées. Et je crois que c'est quelque chose qu'il faut saluer.
Oh, mais les lois
oui, il y avait une dizaine de lois qui ont été votées, adoptées. C'est quand même quelque chose. Au niveau des lois, oui, il y a quand même un petit pas qui a été franchi. Mais le problème que nous remarquons, c'est au niveau de l'ensemble de tous de la gestion législative. Parce que c'est la fin du mandat. Et à la fin du mandat, on devait voir comment la législature a évolué. Qu'est-ce qu'on a fait? On devait faire le bilan, comme le confrère Benoît vient de le dire. Combien de lois on a voté? Est-ce que toutes ces lois sont d'application? Est-ce que le gouvernement a appliqué toutes ces lois-là? Et dans quelle direction? Et quel est l'effet sur le terrain? Tout ça. C'est la capitalisation de tout ça qu'on devait donner un petit rapport, parce que c'est la dernière session ordinaire de la législature. Maintenant, on a
prévu une autre session au mois de septembre.
Septembre, c'est extraordinaire, mais budgétaire. Donc, c'est une session qui est consacrée uniquement au budget, et surtout un budget électoral. Donc, ils n'auront pas assez de temps pour examiner tout ce qu'il y avait comme loi. Bon, pour moi, on a fait ce qu'on pouvait faire, mais ce n'était pas l'essentiel.
Peter Batillon, certains analystes pensent que là où les parlementaires ont échoué, c'est dans les contrôles parlementaires.
Bon, moi, je souffrais que je puisse d'abord revenir sur cette session-là. Donc, par rapport à cette session ordinaire de mars 2011, c'est vrai que certains parlementaires estiment que l'essentiel a été fait, surtout que la loi électorale a été adoptée par les deux chambres. Mais en réalité, le bilan de cette session est négatif, d'autant plus que plusieurs lois n'ont pas été votées comme le signalent certains médias, surtout celles ayant trait avec les élections. Et par conséquent,
il y a aussi une série de lois sur la décentralisation, une série de lois sur la réforme judiciaire, une série de lois sur la réforme de l'armée.
Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Et c'est comme cela que maintenant il va falloir une session extraordinaire pour parachever certaines lois aussi importantes. Et personne d'ailleurs n'ignore que beaucoup de lois souffrent faute de décorum. Et à la base de cette situation, plusieurs parmi les députés et les sénateurs de la majorité comme de l'opposition se sont livrés, et comme on l'a suggéré par notre confrère, dans la recherche de fonds pour des élections prochaines et d'autres encore dans la campagne électorale précoce, ce qui est d'ailleurs à la base de plusieurs, disons, incidents déplorés par-ci, par-là, parce que chacun d'entre eux cherche maintenant à faire voir à la population qu'il est le meilleur par rapport aux autres. Pourtant, en leur qualité des élus du peuple, ils servirait mieux la population en légiférant et contrôler l'action de l'exécutif. Ça serait, disons, la meilleure façon de dire merci à la population, c'est de faire ce qu'ils ont fait. Donc, disons que le bilan a été pratiquement négatif.
Benoît Cambéré, aucun ministre ou mandataire n'est tombé par le fait des parlementaires. Vous incombez la faute aux parlementaires ou aux leaders des partis politiques qui donnent des consignes à ces parlementaires?
Comment on donne des consignes aux parlementaires? C'est dire que nous avons malheureusement eu une piètre représentation. Quelqu'un qui reçoit des injonctions de l'extérieur. On peut dire que la faute, c'est à celui qui donne des injonctions. Non, c'est à celui qui reçoit des injonctions de l'extérieur. On a analysé la gestion de plusieurs mandataires. On a analysé la gestion de plusieurs ministres qui ont été interpellés. Les résultats du vote, comme tu l'as dit, on recevait des injonctions de l'extérieur. Aucun n'est tombé. Ce qui sont tombés, c'est le fait du chef de l'État ou d'un fait extérieur au Parlement qui pourtant a pour tâche le contrôle de l'exécutif, le contrôle de la gestion des entreprises et tout le reste. C'est sur ce plan que, globalement, on dit que le Parlement a failli à sa mission.
Et en ce qui concerne le projet de loi d'habilitation, qui est un projet qui a été rejeté par le Sénat, comment vous expliquez le rejet de ce projet par le Sénat, alors que c'est quand même quelque chose qui est contacté par la Constitution? L'article 129 dit ceci: le gouvernement peut, pour l'exécution urgente de son programme d'action, demander à l'Assemblée nationale ou au Sénat l'autorisation de prendre, par ordonnance loi, pendant un délai limité et sur de matière déterminée, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Ça, c'est quelque chose qui est consacré par la loi. Pourquoi le Sénat a arrêté
la loi dit peu. Et c'est de requérir l'assentiment du Parlement. Mais dans les conditions où cela a été fait, dans la précipitation avec laquelle on a amené cette loi, la session étant terminée, le Sénat, qui est, à mon sens, et au sens de plusieurs personnes, la chambre haute du Parlement, qui au moins a des gens, j'allais dire équilibrés, non, des gens posés, ils ne pouvaient pas, dans la précipitation, adopter une loi qui vient à l'avant-vite. C'est tout simplement parce que, malheureusement, on amène les choses dans la précipitation et on a les résultats qu'on a. Le Sénat n'est pas là pour qu'on amène des projets de loi qui sont simples constitutionnels, mais peu seulement. On ne dit pas « doit ». Et le Sénat l'a rejeté tout simplement parce que c'est arrivé en retard. Il y avait d'autres matières, il y avait plus d'urgent. Et si le budget était exécuté normalement, on ne serait pas arrivé à cette situation, tout simplement.
Albert Romba, donc la faute est au gouvernement qui a déposé ce projet de loi en retard.
Oui, parce que vous avez vu, on allait même connaître la même catastrophe avec la loi électorale. Une loi électorale qui devait être conçue depuis longtemps, parce que si on a des discussions aujourd'hui sur la proclamation du calendrier, c'est parce que la loi électorale n'était pas prête. Même l'ancien bureau avait des difficultés pour faire un calendrier quand même assez réaliste. Et on a attendu, on a fait trop de gesticulations autour de la loi, autour des positionnements à gauche, à droite, qui devait être au bureau, qui ne devait pas être au bureau, et on a perdu plus de la moitié du temps, d'ailleurs les 9 dixièmes du temps, et le 1 dixième qui est resté, on a remis la loi. C'est une loi qui allait connaître la même catastrophe comme celle d'habilitation aussi.
Parce que là, on dit que les lois essentielles, en fait, certaines lois essentielles n'ont pas été votées, et maintenant que nous sommes à la dernière session, comment les parlements vont-ils s'y prendre pour ces lois qui n'ont pas été votées, pourtant, sont essentielles?
Bon, c'est vrai que ce sont des lois essentielles. Donc, pour eux, ils ont pratiquement l'obligation de pouvoir examiner ces lois et, dans la mesure du possible, savoir les adopter. Tout ce qu'ils ont, c'est ces charges qu'ils ont acceptées de pouvoir servir la population, les peuples qui les ont élus. Mais si aujourd'hui, on doit faire les choses de manière sentimentale, ou je ne sais pas, par préférence ou par couleur politique, je pense que c'est du moins regrettable. Donc, les deux institutions, c'est-à-dire les législatives comme l'exécutif, doivent s'entraider pour l'intérêt supérieur de la population. Donc, ils sont tentés de pouvoir travailler pour l'intérêt de ce peuple qu'ils ont accepté de servir.
Benoît Cambéré, qu'est-ce que vous proposez pour que, à la prochaine législature, la production des députés soit améliorée?
Que le peuple choisisse des députés de qualité, tout simplement. On dit que les peuples ont les dirigeants qu'ils méritent. On a envoyé, j'allais dire, n'importe qui au Parlement. Voilà les résultats. Voilà les résultats, tout simplement. Par clientélisme, parce que certains ont donné des crédits, ont donné des t-shirts et tout. Voilà les résultats auxquels on arrive. Maintenant, c'est au peuple congolais de se réveiller, de voir qui il peut envoyer de plus méritants, n'est-ce pas, de plus... parce qu'on a vu toute la législature, ce n'est pas en dernière minute, dans le forcing, on doit dire non, on a adopté une telle loi, elle est essentielle. Non, c'est des choses qui devaient se faire avant. Au lieu de passer le temps à des futilités, entre guillemets, hein, à défendre l'indéfendable des fois, voilà, la législature est finie. C'est comme l'histoire de la fontaine, hein, la cigale et la fourmi. Maintenant, je crois qu'ils doivent trinquer et tirer les conséquences de tout ce temps qu'ils ont passé au Parlement.
Et il faut que, Albert Romba, il faut que le peuple vote pour les parlementaires qui le méritent. Et comment ce peuple-là, qui n'a pas encore vu un parlementaire à l'œuvre, saura-t-il méritant par rapport à l'autre?
Oui, quand on fait le choix, il faut d'abord, c'est en fonction de certaines promesses et de la qualité, c'est-à-dire la qualité de tout ce qu'il y aura comme prétendant élu, doivent, moi, à mon niveau, je crois qu'en dehors du peuple, ce sont le parti politique qui doivent faire un bon choix. Il ne faut pas amener le candidat qui n'a pas assez de maturité politique ou intellectuelle pour aller défendre, parce que ça va de l'honneur du parti politique. Si aujourd'hui, quelqu'un se défend bien dans les deux chambres, on saura que là, c'est le député de tel parti politique. Et il fait même la campagne, même la propagande du parti politique. Et si vous avez un parti politique où le député n'a jamais parlé, on ne le connaît même pas, pendant la campagne maintenant, qu'est-ce qu'il va dire aux gens? Parce qu'on va dire, on ne vous a jamais dit, alors qu'il était au Parlement.
Et Peter Vassilois, que proposez-vous?
Bon, moi je pense que ce qui se passe au sein de l'institution, assemblée, que ce soit nationale comme provinciale, devrait maintenant servir de leçon à la population congolaise. Puisque le choix que nous avons opéré sur tel ou tel autre individu, peut-être que ça n'arrive pas à servir normalement le peuple congolais. C'est comme cela qu'on ne peut plus se laisser faire parce qu'un tel vous a remis un t-shirt, parce qu'un tel c'est mon cousin, parce qu'un tel c'est mon frère. Mais nous devons quand même tenir compte de certaines performances, de certaines aptitudes de la personne pour laquelle vous devez chercher à donner votre voix. Donc moi je pense que à la population de pouvoir maintenant tirer des leçons et savoir porter maintenant son choix sur la personne qu'il fallait à la place qu'il faut.
Merci. Notre deuxième point de ce soir, accrochage mercredi dernier à Lubumbashi entre les partisans du gouverneur du Katanga Moïse Katumbi et ceux de Jean-Claude de Moyambo. Les associations ont opposé mercredi à Lubumbashi des manifestants partisans du gouverneur Moïse Katumbi et ceux de l'honorable Jean-Claude de Moyambo. Le bilan fait état de 3 blessés parmi les journalistes de la chaîne radio-télévision Dua appartenant au député Moyambo et quelques dégâts matériels. Le gouverneur du Katanga a appelé la population au calme. Denise Maillot.
Ce matin, des centaines de personnes venues de quelques communes de la ville se sont attaquées au cabinet d'avocat de l'honorable Moyambo, puis à sa chaîne de télévision Doua. Ces personnes sont identifiées comme partisans du gouvernement de province. À la base de cette manifestation, Moyambo a critiqué la gestion du gouvernement de province. C'était au cours d'une interview accordée à des journalistes belges et diffusée hier sur des chaînes locales. On écoute Jean-Claude Moyambo.
Une autorité ne doit pas se comporter comme ça. Les dégâts, c'est énorme. Non pas seulement ils ont détruit, mais ils ont pillé, ils ont volé, au vu aussi de tout le monde. Et ce qui est grave, ils étaient accompagnés par la police.
En réaction, l'honorable Jean-Claude Moyambo, accompagné de ses partisans, a, à son tour, pris la direction de la ville. Il s'en est suivi un échange de pierres entre les partisans des deux hommes politiques. Le gouverneur de province a saisi l'occasion pour appeler les Moussa au calme et précise qu'il ne répondra pas aux critiques de Moyambo.
On m'a dit à la Kenya, il y a eu un moment du coup qui descendait vers la ville. Je suis allé calmer la population. Il n'y a rien de spécial. Moi, je ne peux pas répondre, je ne peux pas m'attaquer aux Mexicains.
Ils avaient envoyé des policiers avec des armes. Il allait dire, voilà, on est venu tirer sur moi.
Au cours de ces échauffourées, des journalistes de la radio-télévision Mwangaza ont été pris à partie par les partisans de Moyambo. Lubumbashi, Denise Maillot, Radio Okapi.
Albert Omba, votre analyse par rapport à cette situation?
Oui, l'analyse est claire, c'est-à-dire il y a un problème au niveau de la gestion de ses partisans. Et j'ai beaucoup de respect pour le gouverneur du Katanga,
Moïse Katumbi.
Moïse Katumbi, j'ai beaucoup de respect pour
l'honorable
Jambo de Moyambo. C'est-à-dire il faut que les gens, que ce soit les deux, que ce soit les autres, il faut qu'on sache gérer ses partisans, gérer son discours. Et à ce moment-là, ça va nous éviter beaucoup de problèmes, parce que la masse, elle n'a pas d'âme. La masse, il suffit d'un petit incident, et ça va très loin. Bon, peut-être M. Moyambo a mal interprété les propos qui ont été dits par le gouverneur, qui lui-même avait jugé son mandat de négatif. Si j'ai bonne mémoire, il a dit que ce qu'il a fait, ça représentait, je crois, le quart ou
10% de ce qui était prévu.
Voilà. Alors, Jean-Claude Moyambo a bondi sur l'occasion pour saisir cela et peut-être exploiter. C'est de bonnes guerres entre les politiciens. Mais il ne faut pas que la jeunesse prenne en otage leur leader et puis
crée des situations inutiles qui, des fois, ça ne vient pas de l'idée. Ce n'est pas Muyambo ou Moïse Katumbi qui a envoyé ces jeunes gens attaquer. Donc, ils ont pris l'initiative, mais il faut que les leaders sachent prendre des décisions pour gérer leur masse. Et vous verrez que la même scène s'est passée au Kasaï, et la même scène au Bandundu. Pour ce qui est du Kasaï, je tiens à préciser, parce qu'il y a un responsable qui était passé dans la chaîne de Radio Kapi pour dire que pour les Kasaï, ils ont commencé cette histoire depuis 60. Non, 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 non. Je tiens à le rappeler que entre Lutundula et Lambert Mende, ce sont des amis. L'histoire de Okonda Issoué, c'est une vieille histoire qui n'existe pas. S'il y a la lutte entre Mende et Lutundula, ce n'est pas la lutte entre les forestiers et les savaniers, non. C'est une lutte entre deux leaders politiques qui cherchent à avoir une parcelle d'autorité au niveau du Sankuru. Donc, on ne mêle pas les choses. Pour mémoire, Lambert Mende a étudié à Tchoumbe. Parce qu'à Tchoumbe, c'était le centre, à l'époque, où il y avait une bonne école. Au Kasaï oriental, dans le Sankuru. Pendant que Lutundula et les autres, parce qu'à l'époque, on avait que deux collèges. Un à l'autre pour les mathématiques, et l'autre pour les sciences littéraires et consorts pédagogiques à Tchoumbe. Donc, tout le monde de l'autre est allé, qui devait faire les autres sciences, et est allé à Tchoumbe, et c'est de Tchoumbe et Katakopombe, comme Lubefu, qui voulaient les mathématiques, sont allés à l'autre. Donc, il n'y a pas d'animosité entre les savaniers et les forestiers.
Alors, comment expliquer ces accrochages entre les partisans du parti CCI de Lambert Mende et ceux du parti MSDD de Christophe Lutundula, qui sont tous des membres de la majorité présidentielle?
Oui, c'est-à-dire que les deux ne savent pas gérer les ouailles, c'est ça le problème. Il faut qu'ils sachent gérer leurs... Ils ne mêlent pas leur antagonisme politique au niveau de d'autres problèmes ethniques ou tribalos, je ne sais pas, régionalos, tout ça, qui n'ont rien à voir avec leur antagonisme politique. Donc ce sont deux problèmes différents qu'il faut s'aider. Est-ce que nous allons dire aujourd'hui si Samitatu et Kikemulumbe se sont disputés à Massimandi, qu'entre les deux, il y a des tribus ou des collectivités qui sont en opposition? Non, merci. C'est le même problème qui se pose.
Benoît Améré, décidez-vous de se retirer à partir de Kinshasa ou c'est des militants incontrôlés qui se permettent de prendre des initiatives à l'insu de leurs leaders?
Dit-on, militants incontrôlés qui sont tirés à partir de Kinshasa. C'est ça le résultat de la gestion de l'impunité qui a été érigée en système de gestion dans notre pays. Qu'est-ce qui ne s'est pas passé au Katanga depuis quelques années? Qui a été puni? Qui a été arrêté? Qui a été mis en prison? Qui a été sanctionné? Rien, personne. Et le silence au sommet de l'État, de tous ces incidents, que ce soit au Sankuru, que ce soit dans le Katanga. Et ce qui est arrivé au Katanga, remarquez que c'est des gens de la même famille politique qui sont en train de se rentrer dedans. Ça deviendrait-il si c'était ça va arriver à l'allure où vont les choses, parce qu'on ne punit jamais personne. On a entendu des discours incendiaires qui ont commencé déjà, que tel ou tel qui n'est pas de telle province ne doit pas se faire enrôler dans telle province, que tel ou tel a fait ceci, il aille voir dans sa province. Faisons très attention. Ceux-là, ce sont des intercelles qui risquent malheureusement d'embraser et les provinces et tout le pays. Qu'est-ce qu'on a dit à Kinshasa? Moi, j'ai entendu une réaction timide et qui banalise d'ailleurs les choses du secrétaire exécutif de la majorité au pouvoir. Il faut qu'on tire les conseils. Parce que tout ce qui est en train d'arriver, on a chassé les Kassaïens du Katanga, on continue à menacer les non-originaires, ça devient des troupes. Et qu'est-ce que Kinshasa dit? Je n'ai pas entendu le gouvernement qui a l'habitude de répondre à tort et à travers, à tort et à contre-temps, sur n'importe quelle déclaration. Je n'ai rien entendu qui a été dit dans ce sens. Que ce soit sur le problème du Sankuru, que ce soit sur le problème de Bandundu, que ce soit sur le problème du Katanga, et même dans le Kivu, on a tué une femme parce qu'elle est militante de l'UNC. Qui a dit quelque chose ici? Rien du tout. On ne va pas dire qu'on est en train de tirer les ficelles, l'impunité, et comme on a vu que le pouvoir en place a maintenant des limites pour faire appliquer la loi dans le pays, pour servir surtout dans le chef de ses partisans. qu'est-ce qui adviendra quand ça va embraser? On me dit que la police n'a rien fait à Lubumbashi. Mais ailleurs, la police est en train de prendre fait des causes. On a vu qu'on a dispersé les militants de l'UDPS à Goma. Par le maire de la ville, la police a été mise en contribution. Attention, attention, c'est la puce à l'oreille commune aux dirigeants. Il est temps d'arrêter. On dit tolérance zéro, c'est le moment d'appliquer la tolérance zéro et de frapper même dans le camp. Sinon, est-ce que cela fait le lit du chef de l'État? Est-ce que cela fait l'honneur du chef de l'État? Des petits apprentis sorciers qui sont en train, pour des raisons de positionnement et pour des raisons de glorieux personnel, sont en train de rendre plus du tort au chef de l'État que de lui faire du bien. Et cela risque de faire mal aux élections.
Peter Bassinois, vous êtes à Matadi au Bas-Congo, là au moins c'est calme.
Ah, c'est encore
calme. Oui, c'est encore calme.
Il y a eu des cas qu'on a.
Voilà, c'est quand même oui. Benoît Cambéré dit que tout cela est dû à l'impunité. Est-ce que vous partagez ce point de vue?
Bon, l'impunité, oui, puisque ce qui s'est passé au Katanga, franchement, c'est de la pire intolérance politique. Puisque quand bien même M. Jean-Claude Muyambo aurait violemment critiqué la gestion du gouverneur du Katanga, l'honorable Moïse Katumbi, mais les fanatiques de ces derniers n'ont pas eu raison de mener une expédition punitive à l'endroit de la personne physique du président du SCOB et de ses biens. Bien au contraire, au nom de notre jeune démocratie, le gouverneur du Katanga aurait dû recourir même aux instances compétentes en vue de voir la situation réglée dans la non-violence. Mais les actes de violence tels que perpétrés pendant près de 2 heures, sans même l'intervention de la police, il implique, sans nul doute, les autorités locales du Katanga. Et ce qui ne les honore pas d'ailleurs, M. Jean-Claude Muyambo est un citoyen congolais et il a droit à la protection des services de sécurité, dont la police nationale congolaise. Mais d'autre part, je pense que les acteurs politiques de la majorité ou alors de l'opposition soit-il, ont intérêt à formuler des critiques objectives sur les autorités en place. Ils doivent avoir le courage de reconnaître la volonté politique des dirigeants à travers certaines actions à impact visible, mais quand bien même il y aurait des critiques subjectives, mais lorsque les actions de l'autorité sont visibles sur terrain, la population n'est pas libre pour se laisser prendre par des discours de nature à distraire. Et c'est comme cela qu'à travers cet incident malheureux du Katanga, nous voyons également la responsabilité des médias qui exposent aussi les journalistes que nous sommes. Parce que il faut travailler selon la volonté et les désirs des responsables des chaînes de radio ou de télévision, foulant ainsi au pied les règles de l'éthique et de la déontologie professionnelle. Donc moi je pense que les promoteurs de ces médias par rapport à cette situation est qui sont à la fois aussi des acteurs politiques, doivent cesser d'instrumentaliser leur chaîne de radio et de télévision dans leur conflit de leadership. Donc vraiment, il va falloir une application stricte de la loi en matière des élections, tant du côté des acteurs politiques que du côté des médias.
Albert Amba, comment faire pour assurer une période préélectorale apaisée?
Oui, je crois qu'il faut un code. Il faut que la CENI se lève pour mettre de l'ordre dans la boutique, c'est-à-dire faire un code d'éthique pour les politiciens. Il faut qu'il y ait des réunions régulières entre la CENI et les politiciens pour leur dire, voilà, monsieur, nous commençons la période la plus difficile, voilà comment vous allez parler. Ce sont des politiciens, mais ce sont des petits, excusez-moi le terme, ce sont des élèves de la CENI. Donc, ils doivent apprendre comment ils vont gérer leurs partisans. Et puis, il y a le problème de l'impunité. Il faut aussi que la loi agisse, parce que si on trouble l'ordre public, il ne faut pas qu'on se leurre, qu'on dise non, parce qu'il est de tel ou tel système qu'on laisse. Non! Si un groupe de gens vont quelque part, quelle que soit leur nature, ils vont casser, il faut les arrêter, et les punir selon la loi. Qui doit appliquer la loi? Quand tout le monde voit qu'on a troublé l'ordre public et on constate, ça ne va pas à ce moment-là. Et puis, une dernière observation. Si on doit se taire quand il y a de la bousculade au niveau de la majorité, les jours où
certaines personnalités de l'opposition vont agir. Qu'est-ce que c'est? Je vous donne l'exemple de Kassongo. Il y a eu accrochage entre le militaire du PPRD et de l'INC. Mais les autorités ont réagi. Qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils avaient arrêté de partisans de l'INC qui ont été traduits directement en justice. Et le procès, je ne sais pas.
Cette situation ne reflète-t-elle pas le fait que les partis politiques ont failli aller en mission?
Absolument. Les partis politiques, ce n'est pas seulement mobiliser, amener les drapeaux, d'ailleurs qu'on mobilise à coup d'argent. Ce n'est pas seulement ça. C'est également éduquer. Mais malheureusement, tout à l'heure, j'ai souri quand tu as parlé de période préélectorale. Non, on est déjà en plein dans la campagne électorale. Et qui dit quoi à ce sujet? Personne.
Officiellement, pas encore.
Officiellement, écoutez, tout le monde est en train de voir que tous les tenants du pouvoir sont en campagne électorale. Et malheureusement, selon certains disent, avec l'argent du contribuable. Mais alors, qu'on ne se meurt pas. Qui a tiré la sonnette d'alarme pour dire « Attention, ce n'est pas la période de la campagne électorale, il faut qu'on s'apaise ». Non, on est en train de laisser faire. C'est tout ça, cette impunité. Et quand viendra-t-il quand tous ceux qui ont été élus, on va commencer à critiquer leur gestion? Parce qu'on n'en est pas encore là. C'est déjà dans une même famille politique, quand l'opposition va commencer à critiquer la gestion du pouvoir actuel, si déjà dans la même famille politique, on commence à brûler les maisons, à blesser des gens, à casser des villes. Mais quand on va faire le bilan, la critique de 5 ans de pouvoir en place, ben je ne sais pas, on peut s'attendre à tout et qu'on mette la puce à l'oreille des gens. C'est le moment. Il vaut mieux prévenir que guérir.
Nous passons à notre dernier thème de ce soir, célébration hier jeudi 16 juin de la journée de l'enfant africain. Par rapport à cette journée, le gouvernement a lancé hier toujours le projet Enfant dit de la rue. Ce projet lancé précisément par le ministère des Affaires sociales connaît l'appui budgétaire de la Banque mondiale. Avec 10 millions de dollars américains, ce projet dont l'objectif principal vise les besoins spécifiques des enfants dits de la rue à Kinshasa s'articule autour de l'assistance et de la prévention. J'active pour les détails.
La prévention du phénomène enfant dit de la rue est la priorité de ce projet, a souligné le gestionnaire du projet, le docteur Bernard Bouskabou. Selon lui, il s'agit de s'attaquer aux causes les plus courantes de l'afflux des enfants de la rue, notamment la maltraitance ou la négligence notoire des orphelins et des enfants de marais précédents, ainsi que les accusations de sorcellerie, le manque de surveillance parentale et fuite de responsabilité. Par ailleurs, en ce qui concerne l'assistance, le gestionnaire de projet a tenu à souligner qu'un certain nombre d'activités seront amorcées en faveur des enfants dits de la rue. Bernard Bouskabou.
Nous allons recevoir de projets, notamment pour l'assistance, par exemple l'assistance médicale, l'assistance scolaire. Nous allons financer des ONG qui vont contracter avec les écoles.
Mais le gouvernement de la RDC a-t-il les moyens pour garantir un bon aboutissement de ces projets dans ce pays où le manque de suivi va s'en plein? Le ministre des Affaires sociales répond.
Le moyen, c'est la loi elle-même qui va donner des moyens, qui va définir si la loi, à partir de la loi, nous définissons les ressources nécessaires pour financer les différents projets. Je crois qu'il n'y aura pas de problème.
Il n'y aura pas de problème, rassure le ministre Ferdinand Cambéré. Reste à savoir si tous les enfants de 8 communes concernées par ce projet de 5 ans seront issus.
Peter Bassibor, vous êtes correspondant de la radio-télévision du groupe L'Avenir à Matadi au Bas-Congo. Et comment cette journée a été célébrée dans cette province?
Oui, dans la ville côtière de Matadi, aucune manifestation n'a eu lieu le jeudi 16 avril dans le cadre de la journée de l'enfant africain. Mais cela ne veut pas dire que la situation de l'enfant est rose sur l'ensemble de la province du Bas-Congo. Les enfants du Bas-Congo aussi se retrouvent parmi les 30 000 enfants de la République démocratique du Congo qui vivent, à ce jour en rupture familiale. Et ce qui est plus inquiétant, c'est que pendant qu'on arrive à conjuguer les efforts pour combattre les fléaux qui affectent la vie quotidienne des enfants, leur nombre ne cesse d'accroître. Donc, disons que dans la province du Bas-Congo, la situation de l'enfant est aussi préoccupante.
Albert Romba, vous êtes journaliste à Tropicana FM, c'est une radio qui émet depuis la ville de Kinshasa. La célébration de cette journée nous permet aussi de parler de cette question des enfants dits de la rue. Et tout a été dit, des solutions ont été proposées, mais rien n'est clair. Qu'est-ce qu'il faut faire pour finalement trouver une solution adéquate à ce problème des enfants dits de la rue?
Les solutions, il faut d'abord combattre les causes. Quelles sont les causes? Il y en a plusieurs. Et la meilleure des causes, c'est la pauvreté des parents. C'est-à-dire, si les parents sont pauvres, il y aura dissolution de mariage, il y aura séparation des familles, il y aura tout ça. Et c'est ce qui va provoquer maintenant des problèmes de la façon des églises, tout, et toute la litanie de l'histoire qui va suivre. C'est-à-dire quoi? Il faut d'abord soigner le parent, s'occuper du parent. Si le parent est bien soigné, il a un bon salaire, les enfants n'iront pas dans la rue, les ménages ne vont pas se séparer. Ça, c'est en amont. Maintenant, pendant que le problème est déjà, nous sommes à plein dans le fond, comment éradiquer? Il y a des projets, mais ces projets, est-ce qu'ils vont cibler les enfants qu'il faut réellement? Non. Ce sont des projets qui vont se terminer dans de grosses histoires, des séminaires, des remises à niveau, de ceci, cela. Et à la fin des comptes, le résultat sera nul. Donc, il faut, nous avons ici, par exemple, pour la ville de Kinshasa, sur les 30 000, on recense au moins 20 000 pour la seule ville de Kinshasa. Comment vous allez faire? Il faut construire, par exemple, des maisons d'accueil pour ces enfants. Il faut leur donner du travail, le préparer au métier. Et c'est la meilleure façon de sortir de ce fait.
Donc, en vrai, vous êtes rédacteur en chef du magazine Les Échos de la région de Malak. C'est un magazine qui paraît ici à Kinshasa. Et ce projet qui est évalué à 10 millions de dollars américains pourrait-il suffire pour solutionner ce problème des enfants dits de la rue? Albert Omba a évoqué la pauvreté des parents qui est un problème fondamental.
Absolument. C'est 5 millions de dollars.
10 millions de dollars.
En plus, 10 millions de dollars, ça ne peut pas résoudre ce problème. Et tu as vu que le projet de 10 millions de dollars ne concerne que 8 communes. Est-ce qu'on peut dire que dans la ville de Kinshasa, il n'y a que 8 communes qui sont affectées par ce problème? C'est un problème général, c'est un problème social. Le Congolais est pauvre. Et la pauvreté du Congolais, je ne sais pas si les dirigeants sont conscients de ça, fait que tous les problèmes arrivent. Les problèmes de santé, les problèmes, c'est tout ça qu'on doit cesser à résoudre. Et ce n'est pas en un jour. Au lieu de consacrer de l'argent, de jeter l'argent à ceci, de que l'argent soit détourné par des régies à gauche ou à droite, que les entreprises soient gérées comme elles sont en train d'être gérées, c'est résoudre le problème social qui feront que ce problème va disparaître. Mais c'est un problème de longue haleine. On ne peut pas commencer aujourd'hui. On peut même en faire un chantier, ce problème des enfants de la rue, parce qu'il est tellement crucial. L'école, on ne sait pas payer, il n'y a pas de salaire qui vient, les écoles sont dans des états délabrément avancés, et tout ça fait que ces enfants sont obligés de se réfugier dans la rue. J'ai même maintenant les termes, on les appelle maintenant les enfants dits de la rue, parce que ce sont des enfants qui sont nés des pères et des mères congolais, mais qui malheureusement sont dans une situation sociale très précaire. Et les dirigeants de notre pays devraient plutôt penser à résoudre ce problème qui résoudra beaucoup d'autres problèmes au lieu de penser à d'autres choses.
Peter Bassinois, votre conclusion?
Bon, la conclusion, c'est que j'aurais aimé à ce qu'il y ait que l'État congolais, disons, prenne toutes ses responsabilités en main. Parce que si aujourd'hui on peut arriver à parler de ce phénomène enfant de la rue, on a dit, c'est bien clair, la situation socio-économique est, disons, l'élément primordial de cette situation-là. Mais si on arrive, par exemple, à améliorer les conditions de vie de la population, je pense que chacun de nous devrait arriver à prendre toutes ses responsabilités pour prendre sa progéniture en charge. Merci. Et aussi, à côté de cela, j'aurais souhaité à ce qu'on arrive, que l'État congolais arrive à une rigueur dans l'application de la loi. Mais quand il n'y a pas de rigueur, vous verrez que n'importe qui va faire n'importe quoi, il y a des mariages précoces, il y a des enfants qui naissent ça et là, il y a des parents qui les abandonnent, tout ça.
Il faut rappeler qu'il y a une loi sur la protection de l'enfant, mais qui apparemment n'est pas appliquée.
Mais justement, la loi sur la protection de l'enfant n'est pas appliquée.
Merci.
Mais on doit maintenant se poser la question, pourquoi cette loi-là n'est pas appliquée à ces jours ici? Donc il y a une responsabilité quelque part. Et tout ça, moi je pense que c'est à l'État congolais de pouvoir prendre les choses en main et faire appliquer la loi normalement pour éviter tout ce que nous avons comme désagrément.
Merci, c'est la fin de cette émission. Didoné Nyangasa Wanyangasa a été à la technique, Alain Rong à la réalisation, assisté de Thomas Lepetat, sous la supervision de Martin Tchadoudangwe, devant ce micro du matin. Merci et bonne suite de programme sur Radio Okapi.
Thank you.